La voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 21 mars 2014. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
À nos sommaires de cette édition,
Navi Pillay, haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme, horrifiée par les atrocités commises en République centrafricaine. Elle l'a dit à l'issue d'une visite de 3 jours.
Charles Blé Goudé, le fameux ex-leader des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire, sera remis à la CPI pour répondre des crimes contre l'humanité.
Chuck Hagel reçoit des assurances de son homologue russe. Pas de projet d'invasion des troupes massées à la frontière de l'Ukraine.
Des insurgés afghans abattus hier dans un hôtel prisé des étrangers à Kaboul.
Et possible victoire majeure des forces syriennes avec la reprise annoncée du krach des chevaliers près de la frontière libanaise.
Et nous terminerons cette édition avec de la musique et les sports. Pour l'instant, le journal. En Centrafrique, la situation sécuritaire est grave et urgente. Des personnes continuent d'être tuées quotidiennement, spécialement par des miliciens anti-Balaka. C'est ce qu'a fait savoir Navi Pillay, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en mission dans le pays de Bangui, l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique, Nick Long.
Madame Pillay a dit que la situation des droits de l'homme en SCA est toujours extrême, bien que les tueries à grande échelle qui ont eu lieu en décembre et janvier paraissent être arrêtées pour le moment, des personnes continuent d'être tuées quotidiennement. Elle a parlé de la nature extraordinairement vicieuse de ces tueries, avec la décapitation et la mutilation de certaines des victimes, et même des cas de cannibalisme. Et elle a souligné que pour le moment, ces assassins sont rarement punis. Certains ont été appréhendés avec du sang sur la machette et sur une bonne partie de leurs mains, mais relâchés parce qu'il n'y avait pas de lieu de détention ni de moyen de les inculper pour les crimes qu'ils avaient clairement commis. Le haut commissaire aux droits de l'homme a appelé aux Centrafricains de s'interroger sur leurs valeurs et aux dirigeants politiques dans le pays de condamner toutes les tueries et les abus plus souvent et plus vigoureusement. Elle a averti la communauté internationale contre le risque de plusieurs décennies d'instabilité en RCA et de la création d'un nouveau terrain pour l'extrémisme religieux si le pays et ses institutions ne sont pas transformés d'une façon compréhensive.
C'était de Bangui, l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique, Nick Long.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a finalement décidé jeudi de transférer dans les plus brefs délais Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Arrêté le 17 janvier 2013 au Ghana, l'ex-leader des jeunes patriotes sera traduit devant le tribunal de La Haye pour crimes contre l'humanité. Il y rejoindra l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son épouse Simone, poursuivis pour les troubles qui ont suivi les élections de novembre 2010. Pour de plus amples détails, Jacques Aristide a joint Bruno Conné, porte-parole du gouvernement ivoirien.
Une décision sera prise incessamment en ce qui concerne cette remise, dans les plus brefs délais, je dirais. Je pense que c'est une question de jours et de semaines. Il faut premièrement insister sur le fait que M. Blé Goudé a joué un rôle qui a été extrêmement négatif dans les crises successives qui ont frappé la Côte d'Ivoire. Et cela depuis 2002-2003. Il a conduit premièrement la résistance à l'époque contre les accords de Marcoussi. En novembre 2004, il a conduit toutes les agressions contre les Français et les Européens de façon générale. En 2010, il s'est opposé premièrement aux résolutions de la communauté internationale. Il a même encouragé l'opposition sur le territoire ivoirien aux forces de l'ONU en Côte d'Ivoire, l'ONUCI. J'allais dire, les faits sont suffisamment graves le concernant pour que chacun comprenne que les décisions qui sont prises vont dans le sens justement de l'apaisement, dans le sens de permettre que la page soit définitivement tournée sur cette période sombre de la Côte d'Ivoire.
Bruno Conné, porte-parole du gouvernement ivoirien, joint à Abidjan.
Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a lancé un nouvel avertissement à la Russie, disant que ce pays pourrait faire face à des sanctions plus sévères pour son annexion de la Crimée. Timothée de Langmaille pour des précisions.
Dans une interview jeudi avec La Voix de l'Amérique, M. Kerry a déclaré que les États-Unis ne permettront pas que des actes unilatéraux d'un pays arrivent à détruire ce qu'il appelle l'ordre d'après la Seconde Guerre mondiale et la structure internationale. En conséquence, a-t-il dit, le gouvernement du président russe Vladimir Poutine devra décider comment il veut procéder.
It's really up to President Putin and the Russians to...
Nous sommes prêts à répondre avec beaucoup de fermeté par des sanctions supplémentaires touchant des secteurs clés si les Russes continuent à se livrer à des activités illégales et provocatrices comme traverser la frontière d'un pays et ne pas respecter un territoire souverain. Le chef du département d'État a fait ses commentaires le même jour où le président Barack Obama a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie. Les principes de base qui régissent les nations en Europe et dans le monde doivent être respectés dans le 21e siècle. Cela inclut le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. M. Obama a déclaré que la Russie, à travers ses actions, ne fait que s'isoler davantage de la communauté internationale.
Pour sa part, le secrétaire américain à la Défense, Chuck Hagel, dit avoir reçu des assurances officielles que les troupes russes massées près de l'Ukraine n'ont aucune intention de franchir sa frontière. Elles ne sont là que pour des manœuvres militaires, lui a dit hier son homologue russe, Sergueï Shoigu, lors d'une conversation téléphonique de près d'une heure.
Selon un porte-parole du Pentagone, c'était en réponse à une question spécifique de M. Hagel sur les raisons du déploiement de troupes le long des frontières est et sud de l'Ukraine. Quelques heures auparavant, les parlementaires russes avaient ratifié à une majorité écrasante le traité d'annexion de la Crimée. On s'attend à ce que la Chambre haute russe fasse de même aujourd'hui. Le traité avait été signé mardi par le président Poutine et les dirigeants criméens après le référendum de dimanche sur le rattachement à la Russie. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a rencontré hier à Moscou Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. M. Ban affirme les avoir exhortés à éviter tout incident qui pourrait, en Ukraine ou près de ce pays, exacerber les tensions dans la région.
L'Australie a envoyé des avions de reconnaissance dans le sud de l'océan Indien alors que reprennent aujourd'hui les opérations de recherche du vol 370 de Malaysia Airlines, porté disparu le 8 mars dernier. Des images satellites australiennes montrent deux objets qui, estiment les enquêteurs, pourraient bien appartenir à l'appareil. Ces images, prises en début de semaine, n'ont été publiées qu'hier.
L'obscurité, les nuages et la pluie ont empêché les avions de recherche de voir quoi que ce soit hier. Un cargo norvégien qui était dans le secteur quand la nouvelle des débris a été annoncée n'a de son côté rien trouvé après avoir cherché toute la nuit. Pour rappel, l'avion de ligne malaisien a disparu il y a 2 semaines avec 239 personnes à son bord lors d'un vol Kuala Lumpur-Pékin. Sa disparition reste un mystère total.
En Afghanistan, 4 insurgés talibans ont été abattus hier à Kaboul après qu'ils ont ouvert le feu dans un hôtel de luxe prisé des étrangers. Au moins 2 gardes de l'établissement ont été blessés. Les 4 ont été trouvés par les forces de sécurité afghanes cachés dans les toilettes.
Selon des officiels afghans, ils semblaient avoir tous moins de 18 ans et auraient déjoué en début de soirée la sécurité de l'hôtel Serena en dissimulant des pistolets dans leurs chaussettes. Ils ont attendu 3 heures environ avant de se mettre à tirer. L'attaque a été revendiquée par les talibans qui se sont jurés de perturber l'élection présidentielle prévue le 5 avril en Afghanistan. Aux dernières nouvelles, 8 civils ont été tués, dont un enfant et 4 étrangers, selon le ministère afghan de l'Intérieur.
En Syrie, la télévision libanaise Al-Mayadin annonce la reprise par les troupes syriennes de la ville historique de Kalat al-Hosn, près de la frontière libanaise, après de violents affrontements avec les rebelles antigouvernementaux.
La télévision annonce aussi que les forces syriennes ont reconquis le fameux krak des Chevaliers, la citadelle croisée classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si cette nouvelle est confirmée de sources indépendantes, cela marquera une victoire majeure pour l'armée syrienne qui continue sa progression dans ses efforts pour sécuriser les localités et villages le long de la frontière libanaise par où passent des lignes d'approvisionnement des rebelles. Voilà pour le journal. Merci à Anne Albertson, ici Washington, La Voix de l'Amérique. Tension dans les relations entre l'Afrique du Sud et le Rwanda, et cela depuis le meurtre d'un opposant rwandais vivant à Johannesburg. Dans les 3 mois qui ont suivi, il y a eu un raid militaire, l'expulsion de plusieurs diplomates et des accusations de plus en plus acerbes. Timothée de Nangmaï nous en dit plus.
On peut dire que ces derniers mois n'ont pas été trop bons pour les relations entre l'Afrique du Sud et le Rwanda. Deux grandes personnalités rwandaises qui avaient demandé l'asile en Afrique du Sud ont été attaquées. L'une, un ancien chef du renseignement, Patrick Karegeya, a été trouvé mort, étranglé le jour de l'an dans sa chambre d'hôtel à Johannesburg. Puis, au début du mois de mars, des hommes armés ont perpétré ce que le gouvernement sud-africain a qualifié d'atteinte à la vie de l'ancien patron du service d'espionnage rwandais, Faustin Nyamwasa. Certains analystes se demandent si l'Afrique du Sud peut vraiment protéger les demandeurs d'asile rwandais. Kofi Kwaku, qui enseigne à l'université du Witwatersrand à Johannesburg, dit qu'en réalité, l'Afrique du Sud est très faible dans sa façon de réagir aux événements sur son territoire. Certains violent son intégrité territoriale, assassinent d'autres gens. Donc il y a un problème sérieux de sécurité, mais surtout d'insécurité. N'importe qui peut entrer dans le pays, faire comme bon lui semble et s'en aller. Cela envoie un mauvais message, a dit le professeur Kwaku. De son côté, Weston Shilao de l'Université de Johannesburg reste optimiste, notant l'importante contribution de Pretoria à la reconstruction du Rwanda. Je ne pense pas qu'ils vont se retrouver complètement dos à dos, dit-il. Il croit que l'Afrique du Sud et le Rwanda finiront par trouver un terrain d'entente, résoudre le problème et essayer de ramener la situation diplomatique au statu quo ante. La ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, a posté plusieurs messages sur Twitter ce mois de mars, accusant l'Afrique du Sud de protéger des terroristes tout en expulsant des diplomates qui respectent la loi. Le gouvernement de Kigali dément toute allégation relative à une quelconque campagne contre ses opposants politiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Rwanda. Cependant, le président Paul Kagame ne cache pas ses sentiments vis-à-vis de ses anciens alliés passés aujourd'hui dans l'autre camp. « Vous ne pouvez pas trahir le Rwanda et ne pas en subir les conséquences », avait-il déclaré après l'assassinat de Patrick Karegeya.
La Voix de l'Amérique à Kigali, au Rwanda, sur 104.3 FM.
Au Mali, Ibrahim Ag Assalé, leader de la toute nouvelle coalition du peuple de l'Azawad, se dit déterminé à faire avancer les négociations de paix avec le gouvernement de Bamako. Il dit avoir rompu avec le mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, pour sauver l'accord de Ouagadougou. Timothée Durangmaï a joint Ibrahim Ag Assalé à Ouagadougou.
J'ai quitté le MNLA pour d'abord engager une dissidence au sein du MNLA qui vient d'être traduite en mouvement politico-militaire qui s'inscrit dans le cadre du processus de l'accord de Ouagadougou avec l'ensemble des autres acteurs de cet accord.
Quels sont les points de divergence entre vous et le MNLA?
C'est le manque de maturité politique de Bilal Agachérif qui dit du MNLA qui ne fait pas faire la différence entre le processus de paix et le processus de la guerre. Moi, je pense qu'au moment de la guerre, on doit la faire si elle doit être faite. Et au moment de la paix, on doit aussi se battre pour faire la paix dans un cadre idéal, conformément aux accords signés entre nous et Bamako.
Mais ne pensez-vous pas que cette scission au sein du MNLA va retarder la conclusion d'un accord avec le gouvernement?
Je ne pense pas parce qu'aujourd'hui, la CPA qui vient d'être créée il y a 2 jours de cela, qui est la coalition du peuple de la Voix, est en train d'enregistrer un grand succès au sein des adhésions. Dans le cadre des adhésions, beaucoup de groupes qui étaient au MNLA, qu'ils soient militaires ou politiques, n'arrêtent pas de faire des actions pour rejoindre la CPA. Donc nous allons poursuivre la discussion avec Bamako dans le cadre des aspirations légitimes du peuple de la Voix, conformément à l'accord de Ouagadougou.
Quelles sont selon vous les aspirations du peuple de la Voix aujourd'hui?
Écoutez, les aspirations du peuple de la Zawad au moment venu des négociations, je pense que c'est des problèmes que nous allons négocier au fond. C'est des problèmes liés non seulement aux aspects politiques et institutionnels, aux aspects économiques, aux aspects sécuritaires, aux aspects socioculturels. Donc tous ces points seront objet d'un débat pour atteindre un accord qui sera signé entre nous et Bamako.
Ibrahim Ag Assalé, leader de la coalition du peuple de la Zawad, joint à Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Le gouvernement togolais veut réduire la cherté de la vie en renonçant aux taxes de douane sur certains produits importés de première nécessité. L'annonce faite par les autorités togolaises ne séduit ni les consommateurs ni les syndicalistes, nous dit notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Depuis le 16 janvier dernier, date à laquelle le gouvernement togolais a procédé à l'augmentation du prix des produits pétroliers, le pouvoir d'achat des Togolais s'amenuise au jour le jour. Pour atténuer un tant soit peu l'effet de cette augmentation, le ministère du Commerce a annoncé la semaine dernière une mesure d'accompagnement. Bernadette Leguezim-Balouki, ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé.
La mesure consiste à imposer une réduction de 115% de taxes de douane sur les produits de première nécessité. Si je prends un exemple, le sac de riz de 50 kg qui doit être imposé aux taxes de douane sur une valeur de 12 500, l'État a décidé que ça soit imposé sur une valeur consensuelle de 3 000 pour stabiliser le prix sur le marché.
La mesure annoncée par le gouvernement ne draine pas assez d'enthousiasme à l'Association togolaise des consommateurs. Agouta Aladou, porte-parole de l'ATC.
C'est une bonne chose a priori. Mais dans le même temps, nous sommes un peu perplexes parce que depuis 2008 jusqu'à ce jour, nous constatons sur le terrain que les prix ne cessent que d'augmenter sur ces mêmes produits dont ils disent qu'ils ont fait des détaxes. Vous prenez par exemple le riz. De 2008 à ce jour, le prix du riz a toujours augmenté. Même chose pour l'huile, le sucre et les pâtes alimentaires, les détergents, savons et autres, j'en passe, le poisson, c'est la même chose. Donc il faudrait que le gouvernement prenne des mesures qui puissent rendre vraiment effective une telle décision. Il ne suffirait pas de perdre des centaines de milliards parce qu'on veut renoncer au recouvrement de certains droits et taxes. Et dans le même temps, les consommateurs ne ressentent pas la décision du gouvernement dans leur assiette.
La Ligue des consommateurs du Togo, quant à elle, propose une homologation des prix des produits de première nécessité. Emmanuel Sogadi, président de la LCT.
À la Ligue des consommateurs, nous ne sommes pas convaincus de la disposition que le gouvernement prétend prendre. Nous, on demanderait à l'État d'homologuer certains prix de certains biens de première nécessité. Par exemple, le sac de riz lorsqu'on achète à Lomé à 1000 francs, qu'on puisse l'acheter également à Dapon à 1000 francs. Parce qu'on ne peut pas permettre à ceux de Lomé d'acheter un riz à 1000 francs et accepter volontairement que ceux de Dapon achètent à 2000 francs. Les détaillants ne vont pas vous dire que l'État diminue la taxe, mais les détaillants vont vous dire que puisque le carburant reste toujours cher, il est transporté de Lomé jusqu'à Dapon. Même si l'État a diminué de 15% la taxe douanière, le commerçant ne va vouloir pas réduire ses coûts-là.
Une semaine après cette année, les partenaires sociaux se sentent mis à l'écart. Sébastien Tévi, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Togo, CSTT.
Lorsque vous vous retrouvez ensemble dans un cadre tripartite et que vous arrêtez certaines dispositions, vous vous séparez, et quand maintenant vous prenez ces mesures, vous devez en discuter ou en parler à vos partenaires sociaux. Il faudrait quand même que les organisations syndicales soient saisies des mesures concrètes que le gouvernement a. Et en ce moment, nous allons l'analyser et nous ferons le relais pour expliquer aussi à nos mandats, à nos militants, voilà l'effort que le gouvernement a fait. Aujourd'hui, secrétaire général de la CSCT, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Il y a un problème de communication dans ce pays qu'on doit régler absolument.
Le ministère du Commerce prévoit faire prochainement des contrôles sur les marchés pour vérifier l'effectivité de la stabilité des prix. Kay Lawson, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Des représentants des peuples des forêts, peuples autochtones et communautés locales de tous les continents se sont retrouvés à Palangkaraya en Indonésie pour faire le point sur les menaces pesant sur l'environnement. En Afrique, tout comme en Amérique latine et en Asie, l'accaparement des terres menace la survie de ces populations chiffrées à quelques 500 millions d'êtres humains. Dans leur déclaration de Palangkaraya sur la déforestation et les droits des peuples des forêts, les participants ont appelé à l'adoption de nombreuses mesures. Au micro de Camille Grodidier, Sophie Chao de l'ONG Forest People's Program en évoque certaines.
Premièrement, les gouvernements devraient cesser de délivrer toute forme de titres de permis et de concessions industrielles qui se superposent aux terres de ces peuples autochtones sans leur consentement libre, préalable et informé. Deuxièmement, il faut qu'il y ait des mesures juridiques contraignantes pour que toute planification de gestion des territoires et des forêts ainsi que de leur zonage prenne pleinement en compte les droits et les systèmes d'utilisation des terres, des peuples, des forêts, ainsi que les besoins de leurs générations futures.
En ce qui concerne le secteur privé, quelles sont les suggestions ?
Les suggestions provenant de notre atelier, organisé avec les membres de 8 pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, sont qu'il est impératif que les entreprises fournissent des recours aux communautés autochtones pour les violations passées et qu'elles résolvent les conflits fonciers dans le plein respect de leurs droits. Il faut aussi que les entreprises établissent des mécanismes crédibles pour vérifier que les normes de certification et leur nouvelle politique de zéro déforestation et de zéro exploitation soient respectées et que les communautés puissent porter plainte et réformer ce système dans les cas où il n'y aurait pas conformité. Je pense qu'il est important de noter que le phénomène de la déforestation est autant environnemental que politique, sociale, économique et historique, et que toutes ces facettes doivent être prises en compte, et qu'il faut aussi aller au-delà d'une définition scientifique de ce qu'est une forêt, étant donné les nombreux peuples qui en font intégralement partie. Nous parlons d'environ 500 millions de personnes qui dépendent directement de la forêt et y vivent, dont 200 millions sont autochtones.
Sophie Chao de l'ONG Forest People Program, qui était jointe en Indonésie.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Les sports maintenant avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
Football en Europe, on jouait hier la Ligue Europa.
Oui, Lyon s'est incliné sur le terrain de Plzen, 2-1. Sa victoire à l'aller, 4-1 la semaine passée, lui permet toutefois de rejoindre les quarts de finale de la Ligue Europa. La Juventus, elle, s'est qualifiée en battant Fiorentina. Également qualifiée Valence, qui a battu hier 1-0 Ludogorets Razgrad. Malgré son match nul, 2-2, Benfica s'est qualifié.
Des nouvelles du championnat camerounais.
Hier, la Panthère sportive du Ndé s'est emparée de la première place du classement de Ligue 1 en s'imposant 2-0 aux dépens de l'Union sportive de Douala. La Panthère caracole désormais en tête avec 19 points devant Unisport du Haut-Nkam et Apedias de Mfou qui ont chacun 18 points. L'Union de Douala cale au 8e rang avec seulement 12 points. La 10e journée, Idrissa, est prévue ce dimanche.
On parle gros sous à Paris.
Oui, les joueurs du Paris Saint-Germain toucheront une prime, s'il vous plaît, d'€1 million chacun en cas de victoire finale cette année en Ligue des Champions. C'est ce qu'affirme le quotidien L'Équipe et ce serait inédit dans l'histoire du foot. Enfin, Idrissa, je vous laisse la NBA, le championnat de basketball nord-américain. Je crois qu'il y a eu quelques matchs la nuit dernière.
Oklahoma City 102, Cleveland 95, Minnesota 106, Houston 129, Washington 103, Portland 116. Merci à Bagassi Koura. Maintenant, à la place de notre ami Roger Montou souffrant et pour lui souhaiter prompt rétablissement, je vais vous proposer un genre musical qui, bien que datant de plus de 40 ans, lui plaira ainsi qu'à sa génération. En fait, cette musique est interprétée ici par un jeune comme lui, un certain Calvin Richardson, qui, comme moi, est un grand admirateur du soulman Bobby Womack. Calvin, qui a consacré au légendaire chanteur, guitariste et auteur-compositeur tout un album, The Facts of Life, The Soul of Bobby Womack, reprend ici ce succès du Soul Survivor, That's the Way I Feel About You.
You know, life is funny. Everybody wants love, but everybody's afraid of love, you know what I'm saying? Mm-hmm. You know, I'm a firm believer that if you get anything out of life, yeah, you gotta put up with the talk and strife, yeah. Now listen, ooh, you're pushing my love a little bit too far. I don't think you know, I don't think you know how blessed you are.
you're free to any man. Tells you all that she sees. Have you ever thought she was trying to get close to me, girl? What I want you to do is think it over. Think it over, girl. Think it over. That's the way I feel about you, girl. And if that's being weak for you, darling, I don't mind. I don't mind. I don't mind. Ooh. I got one more thing I want to say. Can I do it? Listen. I know you've been hurt, and so has many others too. But that's the sacrifice that life has put you through, put you through. Trust in me, my dear. Have no fear. You don't know, God might have sent me here. Hey. Think it over. Think it over, girl. You better think it over. Sometimes you gotta just take your time, lean back and think about what I'm saying. Feel my words right now, baby. You hear me? Listen. Baby, that's the way.
That's the way I feel about you.
I gotta stand up right now. I wanna talk to you. Can I do it?
That's woo. The way I feel about you.
Cause you make me feel so good inside.
That's the way,
girl.
I feel about you.
And I don't mind. Homie, don't mind if I tell the whole world
that's
that you mind.
You, girl.
Yes, I do, baby. Listen. Please, please, please have a love. If it ever comes knocking at your door, baby. Cause what's out there knocking, baby? The world don't get enough of.
That's the way I feel about you, un hommage de Calvin Richardson à Bobby Womack. Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique, en direct de Washington. Anne Albertson nous rejoint en studio pour le rappel des titres.
Navi Pillay, haut commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme, horrifié par les atrocités commises en République centrafricaine, elle l'a dit à l'issue d'une visite de 3 jours. Charles Blé Goudé, l'ex-leader des Jeunes Patriotes de Côte d'Ivoire, sera remis à la CPI pour répondre de crimes contre l'humanité. Chuck Hagel reçoit des assurances de son homologue russe, pas de projet d'invasion des troupes massées à la frontière de l'Ukraine. Des insurgés afghans abattus hier dans un hôtel prisé des étrangers à Kaboul. Et possible victoire majeure des forces syriennes avec la reprise annoncée du krach des chevaliers près de la frontière libanaise.
Merci Anne pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Qui Idrissa Seruja à Washington, bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.